Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal, présenté par Grace Amzati Masandi.
À la une de l'actualité, les commerçants de la province du Sud Kivu sont appelés à reprendre leurs activités interrompues à cause de la situation sécuritaire marquée par l'activisme des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Cet appel du gouvernement provincial délocalisé est soumis à des conditions par les opérateurs économiques d'Uvira. C'est notamment l'ouverture des banques et des entreprises de microfinance ainsi que la garantie pour leur sécurité. Nous sommes à quelques jours de la rentrée parlementaire. En prélude, la première ministre Judith Suminwa a échangé ce mardi à Kinshasa avec les bureaux de l'Assemblée nationale sur la situation sécuritaire que traverse le pays. Nous en parlons avec Michel Kifindangoy dans quelques instants. La semaine mondiale de la maladie des glaucomes est en cours jusqu'au 15 mars. Nous parlons de cette maladie des personnes malvoyantes avec notre invité Jacques Sambea, coordonnateur de l'ASBL, le cri des Bartimée qui lutte pour les droits des personnes malvoyantes. Voilà tout pour les titres. Bonsoir à tous. Le gouvernement provincial du Sud Kivu, délocalisé, lance un appel aux opérateurs économiques d'Uvira à reprendre les activités interrompues depuis à peu près un mois à la suite de la guerre du M23 et son allié le Rwanda contre l'État congolais. En réaction, les opérateurs économiques préfèrent d'abord observer l'évolution du baromètre sécuritaire dont les indicateurs virent encore au rouge. C'est ce que nous dit l'un d'eux, Biamungu Zembezembe.
Nous avons fait une réunion pour voir la situation sécuritaire et comment la reprise des activités. Et nous, opérateurs économiques, avons donné des préalables. Parce que quand on nous a dit qu'il faut que toutes les grandes activités s'ouvrent, nous avons posé des conditions que nous ne pouvons pas nous engager. Commencer à ouvrir de magasins et consorts pendant qu'il y a prolifération des armes. Il y a des Vazalendo, des FRDC, tous incontrôlés qui se promènent avec des armes partout, non encadrés, pas de ravitaillement et consorts. Alors, ils ne supporteront pas voir quelqu'un qui est en train de compter l'argent et eux ne sont pas assistés. Ils risqueront de vous traquer, de vous accuser, de vous filer et enfin, il y aura toujours des meurtres et de la perte des opérateurs économiques. C'est ce que nous avons dit comme première condition. Et la deuxième condition, nous avons demandé qu'il y ait ouverture de banques et des entreprises de microfinance. Parce que les stations, les grands magasins, les grandes entreprises peuvent ouvrir et quand on constate que vous êtes en train de vendre et vous n'avez pas, il n'y a pas les mouvements de banque, on risquerait de vous retrouver dans la maison.
Sud Kivu toujours, des cas d'enlèvement sévissent à Bukavu, ville sous occupation des M23 soutenus par les Rwandais. Hier, deux membres d'une même famille et les recteurs de l'université Simon Kimbangu ont été victimes. Ronelyne Tibonera pour les détails.
S'agissant de ces trois récents cas d'enlèvement, il y a eu plus de pères que de mâles. Ils ont été libérés dans la soirée après des interrogatoires au service des renseignements des occupants. Même si personne ne connaît les motifs profonds des interpellations en cascade, la libération du professeur recteur de l'USK a connu l'implication de la conférence des établissements de l'ESU, nous a confié une autorité académique de Bukavu. Les deux autres membres de famille d'un acteur politico-militaire du Sud Kivu seraient aussi libérés, tandis qu'un membre proche de la même famille. Les concernés restent enjoignables pour éclairer sur les conditions des détentions durant tout le temps qu'ils ont passé auprès des services interpellateurs. À Bukavu, les annonces des recherches des enfants et adultes portés disparus inondent les réseaux sociaux.
Il n'y a jamais eu des aéronefs à l'aérodrome de Minembwe au Sud Kivu. C'est ce qu'affirme l'ancien sénateur Moïse Nyarugabo sur Radio Kapi. Il rejette ainsi en bloc la version du vice-gouverneur du Sud Kivu sur nos antennes qui soutenait de la présence des éléments du M23 dans cette commune rurale en appui des groupes armés locaux des Twiraneo et Red Tabara en matériel de guerre et en hommes. On écoute Moïse Nyarugabo.
Je viens de suivre avec stupéfaction les déclarations de l'ancien vice-gouverneur du Sud Kivu, le même qui avait demandé aux groupes armés d'aller massacrer les Banyamulenge il y a quelque temps. J'affirme qu'il n'y a jamais eu d'aéronef à l'aérodrome de Minembwe, ni ceux qui ont atterri ou ceux qui ont été détruits. J'affirme aussi qu'il n'y a aucun élément M23 à Minembwe, ni vivant ni tué. Autant d'ailleurs qu'il n'y a aucun élément FRDC parce qu'ils y ont fui depuis le 21 février. Je mets au défi le gouvernement, les FARDC, le vice-gouverneur, d'en apporter la preuve contraire. Tout ceci est une campagne ignoble pour essayer de justifier les crimes de guerre du gouvernement qui envoie des drones et des avions de chasse bombarder les civils et leurs villages là où il n'y a même pas une ligne de front. De toute façon, les avions ne peuvent pas récupérer Minembwe, c'est juste pour tuer et détruire. Mais comme le gouvernement et les FARDC et le vice-gouverneur ne semblent ne pas savoir où se trouve le M23, je vais les aider.
Pour sa part, Tusi Kongole, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Kisaro, rejette le prétexte du Rwanda d'envahir la RDC avec l'idée de protéger les Banyamulenge. Il a dit lors du briefing de presse organisé ce mardi avec son collègue de la communication et médias Patrick Muyaya, ici à Kinshasa. Pour Alexis Kisaro, le régime de Kigali n'a aucune raison de venir régler un quelconque différend entre les Congolais. Il a en outre recommandé aux Congolais de vivre dans l'unité et la cohésion pour ne pas donner de la voix aux agresseurs. Propos recueillis par Étienne Lissombo.
Le régime de Kigali aujourd'hui, qui est dirigé par M. Kagame, et parce que M. Kagame est Tutsi, comme je le suis, comme il y a des communautés à cheval sur chacune de nos frontières, mais à cause de cette ressemblance de phénotype, on considère que nous épousons leur cause. Il n'en est pas question. Moi, et comme beaucoup d'autres, Banyamulenge, et je dirais même des Tutsis, de manière générale, nous ne sommes pas d'accord avec le plan macabre du Rwanda sur notre pays. Nos problèmes, nous voulons les régler en interne. Nous n'avons pas besoin de l'intervention d'un autre pays pour venir résoudre ou pour venir nous protéger, comme je venais de le dire. C'est notre État qui nous protège, comme il protège toutes les autres communautés du pays. Je suis élu dans ce pays. Avant moi, il y a eu des ministres. Toutes ces fonctions, ce sont des Banyamulenge qui les ont occupées. Et donc, lorsqu'on parle de discrimination, il faut quand même nuancer les propos, parce que notre communauté a toujours été représentée.
Par ailleurs, la population de Kipushi dans les Haut-Katanga est appelée à cultiver le vivre ensemble et à lutter contre le message des haines. C'est ce qui ressort de la journée des réflexions organisée ce mardi dans cette entité par les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme en collaboration avec ses partenaires dont la Division provinciale des droits humains et la Commission nationale des droits de l'homme. À cette occasion, les différents intervenants ont appelé les participants à promouvoir toutes ces valeurs pour assurer la cohésion nationale. À Lubumbashi, Jean Gando.
Placé sous le thème « La cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix », cette journée de réflexion a réuni plusieurs personnes issues des mouvements des jeunes, des associations des femmes, des ONG de défense des droits de l'homme, les autorités politico-administratives et autres. John Lumingu, le responsable de l'ONG dénommée Mission internationale de défenseurs des droits de l'homme, a indiqué qu'il était plus que temps d'organiser cette rencontre pour interpeller les uns et les autres car...
Les discours de haine avait la facilité d'inciter à la violence, de saper la cohésion sociale et la tolérance, ainsi que de causer des dommages psychologiques, émotionnels et physiques à travers le tribalisme, la haine et d'autres formes d'intolérance et de discrimination.
L'administrateur du territoire de Kipushi a encouragé ses administrés à éradiquer la discrimination et la stigmatisation qui fragilisent l'harmonie sociale. Et pour y parvenir, Joseph Kongolo, le coordonnateur provincial de la CNDH dans le Haut-Katanga, est l'un des orateurs du jour a souligné que
la population doit être éduquée à la culture de paix dans le cadre du mécanisme de prévention de conflits. De l'autre côté, le dialogue est un mécanisme par excellence de gestion de conflits.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Parlons des relations interinstitutionnelles. La première ministre Judith Suminwa a échangé hier tard dans la soirée avec les bureaux de l'Assemblée nationale en prélude à la rentrée parlementaire. Sous le lead du premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumbay, le bureau de l'Assemblée nationale a conféré avec la chef du gouvernement sur trois points essentiels, dont la situation sécuritaire que traverse le pays. À la veille de la rentrée parlementaire, Judith Suminwa a présenté au bureau de l'Assemblée nationale un état des lieux de la situation politique, économique et sécuritaire du pays afin de permettre au Parlement de travailler en harmonie avec le gouvernement. C'est ce que nous dit Michel Kifindangoy.
Accompagné de Neige Nselé, vice-ministre de Finances, la chef du gouvernement rappelle au bureau de l'Assemblée nationale son engagement pris devant le Parlement au cours de son investiture, celui d'établir un cadre de collaboration permanent avec les deux chambres représentatives pour asseoir la paix définitive dans la partie orientale du pays. Judith Suminwa.
Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de guerre, d'occupation à l'est du pays. Nous allons avoir la rentrée parlementaire à la fin de la semaine, il était important qu'on puisse faire le point par rapport à la situation actuelle et voir ensemble avec le bureau quels sont un certain nombre de pistes à entrevoir pour pouvoir mieux gérer les choses. L'Assemblée nationale, évidemment, va continuer à jouer son rôle de contrôle parlementaire.
La première ministre Judith Suminwa rassure que ces échanges seront réguliers et permanents afin de mener à bien la gestion de la chose publique. En l'absence de son président Vital Kamerhe, le bureau de l'Assemblée nationale a été représenté représenté par Isaac Jean-Claude Chilombaï, premier vice-président, Christophe Mboso, deuxième vice-président, Jacques Joly, rapporteur, Chimène Polipoli, questeur, et Grâce Nehema, questeur adjointe.
Michel Kifindangoy, sur la radio de la paix. Cette autre nouvelle en plus bref. Dans les territoires des Lubero Nord Kivu, deux semaines après un arrêt brusque, les activités scolaires ont repris normalement hier dans plus d'une vingtaine d'écoles primaires et secondaires des cités de Maeria, Masereka, Luotu et environ. Pour rappel, les cours avaient été suspendus à cause de la présence des militaires FARDC fuyards dans la zone et des incertitudes liées à la prise de la localité d'Kipese par le M23. Les militaires étaient aussi accusés de plusieurs bavures dans les agglomérations de Maeria, Masereka, Lukanga, Kimbulu Musienene, Luotu, toujours dans les Lubero. Selon les sources de la société civile locale, les militaires fautifs ont été retirés de la zone, ce qui a permis aux habitants de vaquer librement à leurs activités. Nous sommes à Ituri. Malgré la persistance de l'insécurité dans plusieurs coins du territoire des Djougou, certains habitants bravent la peur pour s'adonner aux activités agricoles. Des part et d'autre de la route nationale numéro 27, entre Iga Barrière et Djina, on aperçoit des espaces des terres cultivées. D'autres personnes, sur des motos, acheminent leurs produits des champs au marché, parfois au risque de leur vie. C'est un reportage de Jean-Claude Lokidile qui séjourne dans la zone.
C'est depuis 2017 que ce territoire, jadis grenier de l'Ituri, est affecté par les conflits dus à l'activisme des groupes armés. Pillages, tueries, extorsions de biens sont enregistrés quasiment tous les jours. Et pourtant, cette situation ne décourage pas certains à s'adonner à l'agriculture. Peu après 12 heures, nous croisons des gens, machettes ou à la main, qui reviennent des champs de part et d'autre de la route qui mène au centre commercial de Djina, à 45 km de Bounia. Des champs de manioc et des bananes sont visibles. D'autres profitent de moins les espaces qui s'offrent tout autour de leur lieu d'habitation pour disposer d'un petit jardin potager où ils plantent amarantes ou feuilles de courge. D'autres paysans apprêtent leur terrain pour la saison culturelle d'avril. Chemin faisant, nous apercevons aussi des motards transporter des produits vivriers, dont des pommes de terre qu'ils ramènent au marché. Des habitants interrogés souhaitent ardemment la pacification totale de ce territoire pour qu'il reprenne son statut de pourvoyeur de l'Ituri et d'autres provinces en produits vivriers. De Djina, Jean-Claude Loki, il est Radio Kapi.
Direction le Kassai oriental. Les maïs récoltés sur le site agricole d'Nkwadi dans les territoires de Chilingue seront transformés en farine de maïs pour la vente afin de favoriser l'accès à toutes les bourses. Cette annonce a été faite lundi par la ministre provinciale de l'agriculture après la visite effectuée sur le site agricole avec la délégation dépêchée sur place par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Des explications avec Esther Ndalafina.
La délégation du ministère de l'économie en mission en Mbujimayi s'est rendue compte de la récolte de maïs effectuée sur le site d'Nkwadi exploité par le gouvernement provincial. Chantal Moulanga, ministre provinciale de l'agriculture, a à cette occasion annoncé pour bientôt la vente de la farine de maïs provenant du maïs produit sur le site agricole d'Nkwadi.
Notre souci est que ça soit transformé en farine. Nous allons le conditionner dans de petits sacs de 5 kilos pour les plus de mini, 10 kilos pour le moyen, 25 kilos et 50 kilos. On va ouvrir des coins de vente où les gens vont s'approvisionner à un prix raisonnable.
La ministre provinciale de l'agriculture a manifesté sa gratitude au vice-premier ministre de l'économie nationale pour son soutien matériel à ce projet du gouvernement provincial.
Nous, on avait besoin de faire 100 hectares faute de moyens. Mais quand le VPM, ministre de l'économie, papa Daniel Moukoko, est venu ici, il a dit non. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à 300 hectares de maïs.
Certains observateurs indiquent que le maïs, l'aliment de base des habitants de la province du Kassai oriental, est souvent exporté dans d'autres provinces par manque de bonnes politiques agricoles. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Actualité internationale.
L'Union africaine a exprimé ce mercredi sa grave préoccupation après que les paramilitaires des forces de soutien rapide et leurs alliés ont annoncé la formation d'un gouvernement parallèle au Soudan, ravagé depuis presque 2 ans par une sanglante guerre civile. Le Conseil paix et sécurité de l'Organisation panafricaine a exprimé dans un communiqué sa grave préoccupation et sa ferme condamnation des récents développements au Soudan, notamment l'annonce de la formation d'un gouvernement parallèle, prévenant qu'une telle action comporte un énorme risque de partition du pays.
L'invité.
La semaine mondiale du glaucome est en cours. C'est jusqu'au 15 mars. Nous parlons de cette maladie avec Jacques Sambéa, coordonnateur de l'ASBL, le cri des Bartimée, qui lutte pour les droits des personnes malvoyantes. Un des combats de Jacques Sambéa est d'éviter que d'autres personnes perdent la vue, comme lui, à cause de cette maladie. Il plaide donc pour une subvention de cette maladie par l'État et des dépistages précoces gratuits, surtout chez les jeunes. Jacques Sambéa s'entretient avec Trio Banzé.
Jacques Sambéa, bonjour.
Bonjour la Radio Capi.
C'est quoi le glaucome et qui sont les personnes les plus exposées?
Le glaucome est une pathologie saisissante. Elle est silencieuse, elle ravage les nerfs optiques et la finalité, la victime devient aveugle. Elle est jusque-là irréversible dans notre pays. Jadis, il y avait des personnes de troisième âge, ou au minimum 40 ans, qui étaient victimes du glaucome suite aux faiblesses des nerfs optiques. Malheureusement, actuellement, les scientifiques disent que ce n'est plus le cas. Et nous avons aussi des preuves, vu notre exploration, qui prouvent que c'est une pathologie congénitale et juvénile. Les enfants en souffrent. Le bébé naît même avec le glaucome. C'est ce qui est dangereux.
Et vous avez vous-même perdu la vue à cause de cette maladie. Comment cela a commencé et comment vous vivez cette situation?
D'une manière spontanée comme ça, j'étais en 6e des humanités à Guémena. À l'âge de 18 ans, je voyais les tableaux fous. Il y avait beaucoup de faisceaux lumineux sur mon cahier. Je ne comprenais pas d'où venait ces flous. C'était ce que je suis allé voir les ophtalmologues. Mes parents vont me dire que mange peut-être les noix de palme qu'on appelle le mila, ça va passer. Et en voyant l'ophtalmologue, il va me dire non, c'est le glaucome. Cela a déjà touché votre œil droit et ça risque de traverser vers l'œil gauche. On doit faire la chirurgie. Ça m'a effrayé. J'ai dit non, je ne peux pas quand même faire la chirurgie ici à Guémena. Je dois aller soit à Tandala, soit à Karawa pour la chirurgie. Et une fois arrivé là-bas, il n'y avait pas aussi un changement réel. On a tous résolu ensemble avec la famille de venir à Kinshasa. Arrivé ici, de l'hôpital à l'hôpital, de l'hôpital à l'hôpital. Puisqu'aujourd'hui, non, mettez ses mains de coulir, ça va stopper la maladie. C'est une pathologie incurable. Et c'est dans les services d'ophtalmologie que j'avais raconté beaucoup de semblables. Des enfants, 9 ans, 5 ans, 10 ans, des adultes souffrant de la même pathologie. Et j'ai compris que c'est un problème de santé publique, mais personne n'en parle.
Mais comment vous vivez alors au sein de votre société, vous ayant perdu déjà la vue?
Si vous contractez le glaucome, la première chose, vous battez d'abord contre la cécité. Vous allez tout faire, tout ce que vous avez, vous achetez des colliers. Et malheureusement, ces colliers aussi, si ce n'est pas importé, ce sont des colliers qui ne vont rien faire. Vous allez mettre des liquides, des gouttes et des gouttes, il ne va rien faire. La deuxième chose, ça coûte énormément cher ces colliers. Un stock peut aller jusqu'à plus de 40-50 dollars. Et dans nos familles, c'est un coût sur le panier de la ménagère. Ce qui nous complique du jour au jour. D'ailleurs, il y a le 11e congrès mondial du glaucome qui va se tenir cette année à Hawaï. On nous a sollicité, mais bon, le ministère de la Santé ne veut pas aussi nous écouter, ne veut pas nous ouvrir les portes.
Vous avez créé une ASBL dénommée Cri de Bartimée. Quel est votre combat aujourd'hui dans votre structure en ce qui concerne le glaucome?
Notre combat, c'est éradiquer et éviter la cécité précoce. Nous avons suivi des collègues, Canada par exemple, ils étaient des glaucomantés. Le suivi et la prise en charge de l'autorité a permis à plusieurs amis comme ça de sauver leur vie de la cécité. Pourquoi cette inégalité des soins? Pourquoi cette distorsion? On voudrait bien que nous aussi nous puissions bénéficier de cette même façon de voir la chose. On était tous des voyants, on a contacté cette pathologie, nous sommes devenus des malvoyants et les autres sont devenus des non-voyants. Les autres aujourd'hui sont des malvoyants à faible vision. Nous voudrions vraiment inverser la tendance, que l'État puisse s'impliquer, que le président de la République puisse prendre ceci au sérieux, de la même manière qu'il s'est impliqué contre les Covid, de la même manière qu'il s'implique contre l'impox et le paludisme, qu'il puisse faire la même chose pour les glaucomes, car ici il s'agit de la vie. Le sens de la vie est le sens par excellence.
Aux autorités, aux structures qui peuvent appuyer la lutte contre les glaucomes, quel dernier appel leur adressez-vous en ce qui concerne la prévention?
Dans ces lacets, ce dépistage, le dépistage à tous les niveaux, dans les écoles primaires, maternelles, dans les entreprises publiques et privées, dans les églises, le dépistage mobile, le dépistage nomade, ça c'est la seule manière où on peut essayer de réduire la prolifération des aveugles aujourd'hui dans notre pays. Pourquoi ne pas donner la chance à nos ophtalmologues d'aller voir ailleurs, de se ressourcer et revenir ici pour sauver des millions de vies? Il n'y a pas seulement ici à Kinshasa. Au décembre dernier, on était au Grand Kivu, toujours les glaucomes. Les gens quittent Boudjala, les gens quittent Wapinga, les gens quittent là-bas, à Yakoma, les glaucomes. À Fungurume, mais on a des amis ici, ils sont venus pensant que dès que je serai à Kinshasa, je vais maîtriser les glaucomes. Quand ils arrivent ici, ils sont déçus. Les autres restent ici, faisant la mendicité sur le boulevard. Les autres sont obligés de monter sur le bateau pour retourner au Maniema, retourner là-bas, à Lodja, parce qu'ils sont déçus à Kinshasa. C'est ainsi que vous voyez autour du Parlement, sur le boulevard Triomphal, le boulevard du 30 juin, les aveugles faisant la mendicité. C'est dû à cela, ça la cause, c'est le glaucome qui est derrière.
Jacques Sambéa, Radio Capi vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité répond aux questions de Trio Banzé. Exactement. 18h20 à Kinshasa. Vous avez été très nombreux à suivre ce journal des Radio Okapi qui touche à sa fin. Merci à Richard Junior Kamunga et à Pelé Kipé Lamondo pour la coordination et la supervision, la mise en onde des Pierre Diassinoa et grâce à Mzati à la présentation. Merci pour votre confiance et bonne suite de l'antenne soir avec Christelle Fritti Mangwa.